Autre radio, autre culture, bonjour. Audio People et autres radios, autre culture vous présentent les deuxièmes rencontres de la création sonore qui se sont déroulées au SAE Institute de Paris les 26 et 27 mai 2010. Bonne écoute.
On reviendra sur ce clip. Non, malheureusement, Lionel Riesler donc, est en cours de restauration actuellement. Il a une session à laquelle il doit être impérativement présent dans le courant de l'après-midi, donc je ne peux pas non plus lui faire risquer d'être en retard. Hein.
Donc moi, je suis au départ ingénieur du son. Mon vrai métier, c'est d'abord la prise de son. J'ai été amené au fil des années à m'intéresser au support ancien et donc à la restauration sonore de différents supports. Des premiers enregistrements sur cylindre, des enregistrements sur disque, sur fil d'acier, de la bande sur laquelle est inscrite un sillon, qui est un système qui a démarré un petit peu avant-guerre en Allemagne, qui s'appelle le système Tefifon. L'idée de base de ce système était de permettre une longueur accrue de la durée d'enregistrement. Et malheureusement, c'est arrivé à peu près comme il y a eu la guerre, c'est arrivé sur le marché à peu près au même moment que le micro-sillon, et donc ça n'a pas duré. Puisque du temps du 78 tours, on avait une limitation à 3 minutes pour les 25 cm, 4 minutes pour les 30 cm environ. Le Tefifon permettait, lui, d'aller jusqu'à une heure d'enregistrement à peu près, dans le maximum. Et c'était assez difficile à réaliser. Donc j'ai restauré un petit peu tous les supports. Et récemment, on m'a demandé de restaurer certains films de Pierre Etex, de restaurer le son de certains films de Pierre Etex. Je suis en phase terminale de cette restauration. Et je peux vous passer un ou deux extraits et vous pourrez me poser des questions. C'est le début du film Un grand amour, voilà, dont l'action se passe dans la cathédrale de Tours au début. Donc c'est la version restaurée que je vous passe. Hein.
Parce que quand on s'est rencontrés, à ma grande surprise, donc là c'est la version restaurée hein, qu'on vient d'entendre, au niveau son, hein, comme me le précise Lionel, c'est pas la restauration image, c'est la restauration son. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre Etex est encore vivant, donc tu travailles avec Pierre Etex, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir retravailler avec le créateur de l'œuvre. Mais finalement, même si tu, dans ton travail de restauration, tu fais quelque chose de très pondéré, où tu as un très grand respect de l'œuvre originale, dans toi, ce qui te semble être le respect, il y a des moments, Pierre Etex semble te dire...
Sur un autre film qui s'appelle « Pays de cocagne », on en passera un petit extrait tout à l'heure, j'avais tenté de corriger un petit peu certaines carences de la prise de son d'époque, étant donné qu'il y avait des sons un peu acides, un manque dans le bas du spectre, et... Quand je lui ai fait écouter, il m'a dit non, ça va pas, faut laisser tel que. En fait, j'ai enlevé les défauts ponctuels, mais je suis resté tout à fait le plus proche possible, en réduisant un petit peu les bruits de fond, évidemment, mais le plus proche possible du document d'origine. Ce que j'ai fait aussi sur ce film-là, comme ça a été fait entièrement en post-synchro, il n'y a pas de problème majeur grave donc c'était plus facile. Mais si vous voulez, je peux vous passer maintenant deux versions. Donc, en ce qui concerne Pays de Cocagne, le début, celle que j'avais proposée, et puis finalement celle qui était le choix de Pierre Etex. Donc, je vais vous passer tout d'abord ce que je lui ai proposé.
Si depuis longtemps déjà on dit que la France est un pays de cocagne, c'est d'abord, sans aucun doute, à cause de la richesse naturelle de son sol. Mais c'est aussi bien sûr à cause de la diversité exceptionnelle de ses paysages, due au privilège de sa situation géographique.
On va maintenant passer un petit bout de la version qui sera la version définitive.
Si depuis longtemps déjà on dit que la France est un pays de cocagne, c'est d'abord, sans aucun doute, à cause de la richesse naturelle de son sol. Mais c'est aussi bien sûr à cause de la diversité exceptionnelle de ses paysages, due au privilège de sa situation géographique.
Et sur quoi s'est faite la différence par rapport à la version que tu avais proposée
La version que j'avais proposée, j'avais tenté de corriger les carences de l'époque, puisque ce film-là, contrairement au premier qu'on a vu, a été tourné dans des conditions difficiles. C'est du direct, avec des petits moyens. Donc, j'avais essayé de redonner un petit peu de corps là où ça manquait, d'enlever des parties un peu surabondantes dans le médium qui rendent l'écoute un petit peu fatigante. Et quand je l'ai fait écouter à Pierre Etex, il m'a dit non, pas question, faut coller beaucoup plus au son d'origine. Donc voilà. Je pense le laboratoire Éclair qui s'occupe de la...
C'est François Aide qui
chapeaute le... Parce que, pour la petite histoire, François Aide et moi étions au lycée ensemble. Et lui a choisi l'image, moi le son. Et puis là, pour cette chose-là, il a tenu à ce que ce soit moi qui m'occupe de la partie restauration sonore.
Oui, Thibaut Héret, je suis ingénieur de recherche chez Thales et en charge du traitement audio. En quoi consistent les techniques de restauration ? Là, vous avez parlé d'une équalisation, en fait, mais
oui.
Quand il s'agit de récupérer des choses qui n'existent pas...
On ne peut pas récupérer des choses qui n'existent pas.
Vous pouvez parler des autres techniques que vous utilisez ?
C'est simplement rééquilibrer des choses. S'il y a des parties qui sont atténuées par des carences des moyens d'enregistrement d'époque, on peut les rattraper un petit peu et sans nuire trop à l'aspect global, puisque on peut parallèlement réduire légèrement le bruit de fond de manière à ce que ces rattrapages ne se fassent pas avec une augmentation de bruit. Donc voilà en gros le schéma global. Après, ce qui est ponctuel, les défauts ponctuels, on les traite de différentes façons, soit par interpolation, soit par des filtrages ponctuels. C'est toute une palette d'outils différents qui permet de s'adapter à chaque cas de figure.
Du coup, votre question en amène une autre, parce qu'en amont, dans certains cas du travail que peut faire Lionel, il y a la récupération du son original. Et le son original, il est disponible sur quoi ? On a vu avec Jean-Louis Ducarme, éventuellement, qu'il est disponible sur bande magnétique, sur piste magnétique. Toujours est-il que des fois, il faut aller rechercher les copies films et réextraire ce film des copies films ou des internégatifs ou je ne sais pas trop quoi. Léon a fait tout un travail de récupération et de restauration à ce niveau-là. Et c'est ce qu'il va nous présenter maintenant.
Bonjour, alors moi je suis également ingénieur du son, je fais de la restauration sonore pour le cinéma depuis une dizaine d'années et depuis 8 ans on a monté un studio en partenariat avec le laboratoire Éclair à Épinay-sur-Seine qui fait quasiment exclusivement de la restauration sonore. On fait un peu de court-métrage, mais moi, maintenant, mon activité, c'est à 80% de la restauration sonore. L'année dernière, on a fait 135 longs-métrages, qui était la moyenne haute. On est entre 100 et 140 longs-métrages par an. Donc je pense pas qu'on va vraiment avoir le temps de rentrer dans le détail sur comment on fait les choses. Et moi, ce qui m'intéresse plus, et ce que je pense qu'il faut soulever le plus haut possible, c'est pourquoi on fait les choses. Alors donc, à partir de la fin des années 20, le cinéma devient sonore. Et évidemment, c'est loin d'être un détail. À partir de la fin des années 20, le cinéma, c'est de l'image et du son, mais c'est un peu plus que ça. Les réalisateurs disent souvent, à la fin des mixages, pour faire plaisir aux mixeurs, que le son, c'est la moitié du film. C'est plus compliqué que ça. Le vrai intérêt du cinéma sonore, du cinéma parlant, c'est l'interaction entre le son et l'image. C'est cette interaction entre le son et l'image qui va nous permettre de créer des univers cohérents, plus ou moins réussis, plus ou moins réalistes, plus ou moins fouillés, mais des univers cohérents qui vont nous permettre de capturer l'attention du spectateur, de le sortir de lui-même et de provoquer de la réflexion, des émotions. Le cinéma et le cinéma sonore plus encore n'est pas un art qui s'adresse simplement à l'intellect, c'est aussi un art qui s'adresse au sens. On va provoquer des sensations chez les gens pour quelque part créer des émotions, créer une réflexion. Je ne sais pas si vous avez tous vu le chanteur de jazz qui est donné pour être le premier film parlant. Alors ça, bon, ça se discute parce qu'il y a d'autres essais avant, mais bref, il a comme particularité assez intéressante d'être partiellement sonore, c'est-à-dire que il y a des scènes qui sont du film muet avec de la musique et des cartons, et certaines scènes qui étaient donc l'événement du moment sont sonores avec du son direct synchrone, enfin je sais pas si c'est du son direct, mais en tout cas avec du son synchrone. Et là, quand on regarde ce film, d'un coup on rentre dans une modernité, la magie opère d'un coup, et d'un coup on rentre dans cette sphère de réalité accessible au spectateur. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que quand on restaure le son d'un film, on restaure pas simplement du son. On participe à la restauration du film. Donc ça veut dire que le but du jeu, ça va être de permettre aux spectateurs modernes d'entendre le film comme l'ont entendu les spectateurs d'époque, le jour de la première du film. Alors, plus le film est ancien, plus c'est difficile, parce que les éléments ont vieilli, ont voyagé, se sont abîmés. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de s'attaquer à tous les défauts, tous les outrages du temps, sans jamais intervenir sur l'aspect esthétique des choses, y compris quand il s'agit de défauts esthétiques. Je m'explique. Un des premiers films que j'ai restauré, c'est un film de Jean Vigo qui s'appelle « Zéro de conduite », qui est donc un film de 36-37, enfin, deuxième moitié des années 30, qui était un film avec très peu de moyens. Et manifestement, ils avaient à disposition simplement deux pistes. Donc le début se passe dans un train, il y a des enfants qui parlent entre eux avec de la musique, le son du train et les enfants. Comme ils n'avaient que deux pistes à disposition, pendant les dialogues des enfants, la musique continue mais le bruitage de train s'en va. Est-ce que c'est notre rôle de prendre du son de train à côté pour boucher le trou sous les voies? Réponse, a priori non, on n'a pas à le faire, parce que la limitation technique de l'époque fait partie du film autant que tout le reste. Et ce qui nous intéresse, c'est de restaurer l'objet filmique. Parce que c'est le patrimoine et parce que les cinéphiles qui veulent voir les films veulent voir l'image originale et le son original. On ne va pas remonter un film parce qu'on le trouve trop lent, on ne va pas remixer un film parce qu'on le trouve trop daté ou je ne sais quoi. Donc l'idée, c'est ça, c'est de présenter au spectateur un élément le plus proche possible de l'élément d'origine. Pour ça, évidemment, il faut trouver le meilleur élément possible en circulation. Ça, c'est pas vraiment notre travail. C'est plutôt le travail des ayants droit ou des gens qui vont mettre en œuvre la restauration. Mais nous, on a un rôle d'expertise pour dire cet élément-là est très bon, cet élément-là est moins bon, etc., etc. Après, une fois qu'on a localisé le meilleur élément, on le repique, c'est-à-dire on le numérise de la meilleure façon possible. Alors, parfois, on peut avoir des étapes de nettoyage physique qu'on fait faire chez Diams également, en général. Et après, on lit le meilleur élément qu'on a avec la meilleure machine disponible. Donc, dans les éléments, on peut soit partir d'une sortie de mixage magnétique. Donc, ça, on commence à en trouver à partir des années 50. Et c'est le meilleur élément qu'on peut avoir, puisque c'est la sortie de mixage magnétique, c'est ce qu'il y a juste derrière le mixage et ce qui va servir à fabriquer le négatif. Mais c'est un élément magnétique qui est donc intrinsèquement de bien meilleure qualité que les éléments optiques. Alors, parfois, on retrouve les bandes avant mixage, mais De mon point de vue, on n'a rien à en faire, puisque contrairement au montage, on peut reconformer un montage à partir d'une copie qu'on a et des rushs. On ne peut pas refaire un mixage à l'identique. C'est strictement impossible, parce qu'un mixage, c'est des milliers de décisions conscientes ou inconscientes, des milliers de gestes, c'est des mouvements de fader, c'est des réglages d'égalisation, qui passent eux-mêmes par du matériel d'époque. C'est-à-dire, si vous mixez même 4 pistes sur une API des années 60 et sur une phonics numérique de maintenant, même si vous faites le même mélange avec les mêmes niveaux, ce qui est toujours difficile à retrouver, et je parle que de 4 pistes, vous aurez un résultat différent, juste parce que s'il y avait des consoles à lampe avec peu de pistes, c'était compliqué, et ça, on ne pourra jamais le refaire à l'identique. Donc, on doit toujours partir d'un élément après mixage. Dans le meilleur des cas, on retrouve le magnétique. Et dans ce cas-là, c'est assez facile, parce qu'un magnétique, s'il n'a pas décomposé ou s'il a été bien conservé, on prend une bonne défileuse magnétique, on le numérise avec un super bon convertisseur et des très bons préamplis, et déjà, on se retrouve avec une base qui peut crachoter un peu, qui peut avoir des petits soucis, mais en général, on est très content quand on part d'un magnétique. Alors, ça fait des restaurations pas très chères, parce qu'il n'y a pas énormément de travail, mais le résultat est forcément très bien. Ensuite, l'étape d'après, c'est le négatif, c'est-à-dire que à partir du magnétique de sortie de mixage, on fabrique encore pour quelques années peut-être. On fabriquait un négatif son, donc on passait du domaine du son magnétique au son optique. Et c'est ce négatif son qui va servir, dans la plupart des cas, à faire des interpositifs, des internégatifs, puis les copies. Donc quand on a le négatif original, c'est un très bon élément. Le problème jusqu'à l'année dernière, c'était que on peut pas lire directement un négatif son. Ça exige de tirer un positif à partir du négatif pour des raisons optiques. Le négatif son normalement est pas fait pour être lu. Sauf que tirer un positif, ça coûte dans les 3 ou 4 000 euros. Alors nous, on a mis la main sur un scanner qui permet de lire directement les négatifs avec une qualité exceptionnelle. Dans les extraits que je vais vous passer, le premier extrait, c'est les vacances de Monsieur Hulot qu'on a restauré pour la Cinémathèque française l'année dernière. Et c'est le premier film qu'on a fait avec ce scan négatif, et vous allez voir que la qualité pour du son optique est assez ébouriffante. Donc, un bon cas, c'est quand on retrouve le négatif original. Parfois, on retrouve que des interpositifs ou des internégatifs. C'est un peu moins bien, mais avec notre scanner, on arrive quand même à des très très bons résultats. Et dans le pire des cas, on retrouve que une copie d'exploitation, c'est-à-dire une copie positive avec combinée image et son, et qu'une copie qui a tourné, dans laquelle les projectionnistes ont monté, ont démonté, parce que les films voyagent par bobines séparées, donc il faut monter et démonter les amorces. Et tout ça, évidemment, ça salit les films, ça amène de la poussière, les mecs mangent des chips sans leur collage, et forcément, une copie d'exploitation, ça peut être tout de suite assez mauvais. Et donc ça fait plus de travail dans le domaine du numérique après. Donc ça, c'est une source négative directe avec le scanner. Je veux bien un peu plus de son. Alors ça, c'est voilà, copie d'exploitation pourrie.
Oh, das freut mich, Herr Renfield.
Graf Dracula hat mir einen Brief aus Transsilvanien geschickt.
C'est copie d'exploitation avec le scanner.
Er schreibt, er möchte hier ein Haus kaufen. Ich weiß, es wird eine weite Reise werden.
Wo liegt das? Jenseits der Karpaten wahrscheinlich.
Ja, etwas, das ich nur Ihnen ganz allein anvertrauen kann.
Oh, das freut mich, Herr Renfield.
Graf Dracula hat mir einen Brief aus Transsilvanien geschickt. Er schreibt, er möchte hier ein Haus kaufen. Ich weiß, Es wird eine weite Reise werden.
Wo liegt das? Jenseits der Karpaten wahrscheinlich.
Bon, là, l'écoute, ja. L'écoute manque un peu d'aigu hein, par rapport à une salle de ciné.
じゃあせいぜい前に唾をつけて。明日は自宅の方行ってみよう。勝手見りゃ大体人物がわかるからないしな。じゃあせいぜい前に唾をつけて。
La Monta, c'est du multicanal de 1950.
De l'action !
Le multicanal d'origine.
De l'histoire ! Messieurs, dames ! Ladies and gentlemen ! Meine Damen ! De l'action ! De l'histoire ! Messieurs, dames ! Ladies and gentlemen ! Meine Damen und Herren ! Chaque mouvement de son numéro, comme chaque action de sa vie, sont dangereux. Elle irise son joli cou. Tout faux mouvement à cet extrême hauteur et c'est la chute, la mort. Chaque mouvement de son numéro, comme chaque action de sa vie, sont dangereux. Elle irise son joli cou. Tout faux mouvement à cette extrême hauteur, et c'est la chute, la mort.
Voilà, donc le but du jeu, car tout ça est un jeu, c'est évidemment d'enlever le maximum de crasse, sans jamais que ça ait l'air restauré. Une bonne restauration, ça sonne juste comme une bonne copie, et dès qu'on introduit des artefacts de denoise, c'est-à-dire des défauts introduits par les outils qui peuvent nous servir, on a perdu. C'est pas le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui ait l'air naturel, qui ait l'air juste d'être une bonne copie.
Bravo. J'ai une question. À un moment donné, tu as signalé, parce qu'il semble que tu aies introduit dans ton laboratoire un outil tout à fait intéressant, donc qui est ce fameux scanner, mm-hmm. en particulier qui a la propriété de pouvoir scanner du négatif. Donc on évite de régénérer un positif avec une perte de qualité substantielle, plus un coût à supporter.
La perte de qualité du tirage d'un positif, c'est bizarrement pas énorme en élongation variable, parce que c'est l'histoire de blanc-noir, noir-blanc.
Par contre, tu as parlé d'une récupération basée sur en utilisant de la lumière blanche, c'est-à-dire que dans ce cas-là, tu n'es pas passé sur le scanner.
C'était avant le scanner.
C'était avant le scanner.
C'était pour faire écouter comment marchait le scanner sur une copie sale. Parce que le scanner marche très bien sur Monsieur Hulot, mais c'est un négatif original, donc mm-hmm. par définition, les négatifs originaux, ils servent à faire les interpositifs, et après, on n'y touche plus, donc ils n'ont pas beaucoup tourné.
Des questions, allez-y, hein, profitez-en.
Les outils que vous utilisez sont des outils, je dirais, du commerce que vous optimisez vous-même au niveau des paramètres, ou vous développez des outils qui vous sont propres ?
On ne développe pas parce qu'on n'est pas assez intelligent. C'est juste, après, faut voir, même un film qui a vraiment l'air pourri, c'est jamais qu'une accumulation de problèmes qu'on peut régler individuellement. Alors, bon, il y a évidemment un niveau de pourriture au-delà duquel on ne peut plus faire grand-chose. Hein, on ne fait pas une vache avec un hamburger. D'abord, repiquage le mieux possible. Et c'est vrai que depuis qu'on a le scanner, ça est assez violent. C'est une machine assez bizarre. Donc, c'est encore moitié un prototype. Il y en a 5 dans le monde. Il n'y en a qu'un seul en France, c'est le nôtre. Il y en a un à la Cinémathèque du Danemark, un en Californie, un au Portugal et le dernier, je ne sais plus. C'est une machine qui monte beaucoup plus haut que du son optique. Le son optique, c'est 8 kilos.
Il m'a invité l'autre jour à aller voir parce que j'avais besoin de faire ma culture. Bon, il se trouve que moi, j'ai travaillé sur d'autres appareils optiques, notamment pour faire de la mesure. Quelque part, c'est un appareil qui fait de la mesure d'élongation. mais sur des tranches très fines. Donc, à la limite, on se pesque sur du DSD, sauf qu'on ne sort pas codé sur un bit à la sortie. Oui, oui. On, c'est une mesure d'élongation.
Voilà, et en gros, en interne, ça fait du 96. Alors, donc, quand on le sort comme ça de base, il y a trop d'aigus. Lui, ce que dit le fabricant, c'est pas de problème. Vous prenez le tournevis, vous défaites le focus du laser. Et comme le laser sera moins précis, vous allez avoir moins d'aigus. Sauf que si on garde la bande passante la plus grande possible, et du coup, les clics, plus il y a bande passante, plus les clics sont pointus. Et plus le clic est pointu, plus le CEDAR derrière, il va se le détecter facile et il va se le remplacer facile. Et surtout, il va remplacer une petite portion. On numérise, après, on passe au CEDAR, le moins fort possible. La problématique est la même que dans le resto image, c'est-à-dire plus on met les déclics automatiques forts et plus on endommage le son, et évidemment, on ne peut pas le faire. Donc, selon le budget qu'on a, le temps qu'on a, on va le mettre le CEDAR le moins fort possible pour le laisser le son vivre le plus possible, et on va enlever tout ce qui reste à la main. Alors, la balance, après, c'est une question de budget, de temps, de qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on laisse faire par la machine, qu'est-ce qu'on enlève à la main. Moins on a d'argent, plus on fait faire par la machine, et moins on enlève à la main, mais plus on a attaqué les aigus. Alors, donc après, on développe à la main, ce qui peut être très très long, puisque sur Lola Montez, par exemple, il restait, il y a des passages où on était à plus d'un plop seconde. Il y a trois pistes, hein, c'est 1955, mais c'est du multicanal, cinémascope, quatre pistes, tout ce qui est le plus grandiose. Et donc, il y avait trois fois deux heures à développer à la main, à plus d'un plop seconde. Il faut juste du temps et un peu d'expérience pour ne pas y passer sa vie, quoi. Après, une fois qu'on a développé, on commence à attaquer des étapes de denoise. L'idée, encore une fois, c'est de séparer les choses et de pas faire un gros denoise avec un plug ou avec un logiciel, ou parce qu'il n'y en a aucun qui sont vraiment efficaces dans tous les cas de figure. Et donc, selon le type de souffle qu'on va avoir, on sait que celui-là va marcher mieux que l'autre. Et puis, même s'il y a des gros souffles un peu compliqués, il n'y a pas longtemps, j'ai fini French Cancan de Renoir, où ça soufflait vraiment beaucoup. C'était de la densité variable, bref. Et là, globalement, on va plutôt prendre 3 ou 4 denoisers différents, prendre 3 dB avec chaque. Et 3 x 4, ça fait 12, et 12 dB, c'est bien. Mais sauf qu'il n'y a aucun plug ou aucun denoiser qui fait 12 dB d'un coup comme ça, quoi, sans pourrir le son.
Est-ce que vous saviez quelle était l'origine, avec quelle machine à l'origine le son négatif a été fait? Je veux dire quoi?
Non, ça, on ne le sait jamais.
Je veux dire que, ou bien c'était les machines traditionnelles de Westrex qu'on appelait les valves à ruban. Les valves Westrex à ruban.
Comme ça, c'est pour faire la densité variable, ça, non?
Hein, densité,
oui.
Variable,
ah oui,
exact.
Densité variable, alors.
Densité variable,
c'est encore un autre problème.
Et puis, densité fixe avec le vrai galvanomètre, oui, type Pico.
Ça, on sait ce qu'on a, parce qu'on a dans les mains le négatif, on l'a, on le scanne.
Voilà.
Alors, je précise que le scanner, il marche sur la densité fixe, sur l'élongation variable, donc, mais pas encore sur la densité variable.
Donc, sur les films qui ont été faits avec des lampes à ruban.
Voilà, hein, en densité variable.
En densité variable,
il faut repiquer avec de la lumière
encore,
rouge.
Il ne travaille pas encore dessus.
Non, il faut repiquer.
Il y en a eu beaucoup, c'est Westrex. Hein.
Oui, il y en a eu bien.
Ça fait du monde, Westrex. Hein.
Mais deux choses. D'abord, après, on repique. Les défileuses en lumière blanche ou en lumière rouge existent encore. Et si on met les bons convertisseurs et les bons préamps, ça sonne quand même encore bien honnête. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de souffle, donc il faut dénoiser beaucoup plus. Et donc pour finir, à la fin, on passe dans une phase qu'on appelle la phase de mix, mais en fait, en général, c'est pas vraiment du mix, puisqu'on a qu'une piste. Et là, on règle les couleurs pour essayer de que ce soit pas trop agressif. Alors après, l'agressivité, c'est toujours compliqué, puisque les films des années 40, ils passaient pas sur des Genelec ou sur des JBL, quoi. Ils passaient sur des trucs qui avaient pas un pet d'aigu, qui étaient horribles. Et donc, si on met, sans vraiment rien toucher au spectre, à l'agressivité, ça dans des JBL, dans un cinéma, il y a 8 morts au premier rang direct, quoi. Donc on fait la couleur, on touche à la couleur, on touche à la dynamique, toujours dans l'esprit, on est toujours en train de comparer avec notre source pour être sûr de rien perdre, quoi. Par exemple, dans Les Vacances de Monsieur Hulot, je sais pas si il manque la dernière musique de la fin, où il y a une bobine où il manquait 2 notes de vibraphone. Donc là, j'ai récupéré les magnétiques des musiques seules, je mets 2 notes de vibraphone, je raccorde l'ambiance avec une ambiance qui est la même du film. Là, on trahit personne, quoi. On fait juste en sorte, et on n'est pas des ayatollahs de ce qu'il y a sur la bande, juste on respecte ce qui a été fait à l'époque.
Éventuellement, il y a un point de commentaire. Effectivement, la question du denoiser, il semble qu'on entre toujours dans une zone qui soit un peu une zone de subjectif. d'une personne à l'autre, on peut avoir des sensibilités différentes et se dire non, là, moi, j'ai le sentiment que le denoiser, il dépasse un seuil où on commence à apporter alors, quelque chose, à dénaturer. Il y a des commentaires sur ces points-là
ou... Oui, le denoiser est un outil qui marche très bien quand on en a très peu besoin. C'est le problème. Et il faut le savoir. Et dès qu'on a beaucoup de bruit, moi, je pense qu'il vaut mieux laisser un petit peu de bruit plutôt que d'aller trop loin et de créer justement les fameux artefacts qui donnent un son légèrement tuyau et qui, dans les intervalles entre les mots, donne un silence qui est un peu irréel.
Il y a un autre problème avec le débruitage, c'est que le bruit, à un moment donné, fait partie de l'esthétique. On a le même problème dans l'image.
Oui.
Et on a le même problème avec le grain dans l'image. Quand on retire trop de grain, eh ben, l'image, elle est plus belle. Elle a perdu quelque chose.
Il faut toujours en laisser une partie. Parce qu'autrement, on tombe dans le vide.
Le denoise, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que c'est là où il faut savoir s'arrêter. Et quand on a écouté le film 200 fois, on commence à psychoter sur le souffle, à être obsédé par le souffle.
Et c'est là où on fait les conneries. On compare de la fois précédente à la fois précédente, et à la fin, on entend...
C'est pour ça qu'il faut toujours garder... Moi, je garde toujours la source, aussi pourrie soit-elle, sous la main, pour pouvoir toujours passer de l'un à l'autre, être sûr qu'on ne perd rien. Mais le denoise, c'est le plus casse-gueule de tout.
Juste une question...
Quelqu'un a vu sur Arte, je crois que c'est hier même, une émission en deuxième partie de soirée qui s'appelait Cabaret à Berlin. Ce sont exclusivement des archives vraies, noir et blanc bien sûr, depuis les années 20 et quelques jusqu'à l'arrivée d'Hitler en 33. C'est extravagant. Alors le principe de nettoyage, le noiseless, moi j'emploie seulement ce terme-là par rapport au vrai film optique, le noiseless qui a été fait est intégral. C'est net, pur, c'est comme ton monsieur Hulot tout à l'heure, il n'y a plus une bavure, il n'y a plus rien du tout. Résultat de quoi? Sur une émission de près de 1h30, on a une impression de malaise, c'est trop vrai et c'est pas vrai d'un seul coup. Parce que notre culture nous a mis dans la mémoire une certaine quantité de bruit. Je veux dire que c'est toujours la même chose, je reviens à la même chose, mon œil entend. Et puis, des dizaines d'années auditives et de vision. Et c'est très curieux, parce que j'ai été, moi, victime, hier, je crois que c'est hier soir, j'ai été victime de moi-même, en voyant 1h30 d'actualité démente et extravagante. Et il paraît qu'il y a eu 2 ans de travail de montage pour constituer cette émission-là, avec ses originaux vrais. Il y a des moments où on dit « c'est refait ». Mais quand on voit ce qu'on voit dans l'image, on dit « comment ils ont pu faire ?» Tu disais Charleston, va Charleston si tu veux, n'importe quoi. C'est pas possible. Eh bien, c'est pas vrai, c'est que du vrai, mais c'est tellement propre, au point de vue auditif, que mon œil et l'ensemble de ma culture ne l'acceptent pas vraiment.
Bon, ben bravo, ben, sauf question de la salle, parce que du coup, je crois qu'on a une merveilleuse introduction, sauf que ça va être un numéro d'équilibriste, mais Olivier sait faire. Non, parce que moi, j'ai noté à la volée un certain nombre de commentaires. Je ne sais plus si c'est Lionel ou peu importe. Quelqu'un nous a parlé des carences de la prise de son de l'époque. C'est intéressant parce que si on s'approprie cette quête, se dire mais il y avait des carences techniques à l'époque et c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'un artiste ou une artiste ne peut plus s'exprimer aujourd'hui avec le niveau qu'elle pouvait réellement donner à l'époque. Donc il y a un certain nombre de questions. Donc là, Olivier Attia, qui dirige la société Audionamix, va nous parler de son approche, des outils qu'il propose. Alors, est-ce que c'est modernisation d'enregistrement ancien? Est-ce que c'est restauration? Toute la question est posée. Ce qui compte derrière, c'est quelle est l'intention du directeur artistique, parce que quelque part, derrière tout ça, il y a des démarches artistiques. Donc à partir du moment où il y a une démarche artistique et qu'on colle à ce projet, je pense que les choses sont recevables. En tous les cas, on laisse Olivier présenter son...
Autre radio, autre culture.